Bonsoir Aude, on vous retrouve lundi pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, Daniel Martin et Florent Georgesco se font face à notre affiche Babylone de Yasmina Reza, paru chez Flammarion, et Laetitia de Yvan Jablonka, paru au Seuil. Nous évoquerons aussi plus rapidement Livre pour adultes de Benoît Dutertre chez Gallimard et Charlotte Delbault de Ghislaine Dunant chez Grasset. Vers 21h20, nous retrouverons Lucille Como dans son petit salon. Des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour la très belle exposition Fantin-Latour à Fleur de Peau, visible au Musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 12 février. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouveau roman de Yasmina Reza, Babylone, un auteur qui alterne avec succès écriture théâtrale et romanesque, qui proposera d'ailleurs bientôt sa propre mise en scène de Bella Figura, sa dernière pièce de théâtre en date créée par Thomas Ostermeyer la saison dernière, mais donc elle alterne un coup j'écris pour le théâtre, un coup j'écris du roman. Ce coup-ci, c'est du roman et ça s'appelle Babylone. Petit morceau de musique pour Daniel Martin pour sa compilation, fameuse compilation en vente dans toutes les stations-service, la compile de la dispute. Florent Georgesco.
Il chante dessus, non?
Il y a un bonus track, hidden track, pour entendre chanter Daniel Martin. Mais pour l'instant, on va entendre vous écouter. Florent Georgesco, de quoi parle donc ce roman de Yasmina Reza, Babylone?
Parle de poulet notamment.
Il y a plusieurs façons de.
Je crois que c'est la meilleure.
Écoutez, tout est dit.
Attaquons par le poulet, ouais. Car tout se joue autour du destin des poulets. Nos auditeurs ont déjà dû entendre parler de ce livre. Enfin, je dis deux mots quand même sur.
Non, mais c'est pour ça que je vous demande de quoi ça parle.
Eh bien, ça parle d'un meurtre. Ça parle de rapport de voisinage, ça parle de fête au printemps.
Ça parle d'une
et
femme
ça parle
de 60 ans.
Et la femme de 60 ans en question, Elisabeth, est la narratrice de tout ce que je viens d'esquisser. Mais le meurtre ne vient certes pas tout de suite, mais tout le monde sait qu'il y a un meurtre dans ce livre. Je ne dévoile rien.
Maintenant, vous venez de le
en
dire.
Tout cas, je ne crois, en tout cas, dès les premières pages, nous savons que quelque chose de fatal
a
eu lieu au moment où la narratrice prend la parole, en effet. On sait qu'il est question de ses voisins du dessus. Nous sommes dans les préparatifs d'une fête qu'elle va donner dans son appartement. Ses voisins du dessus, elle a besoin de leur chaise. Par conséquent, ils viendront aussi. Cela dit, entre-temps, elle s'est liée d'amitié avec le mari de ce couple du dessus, qui s'appelle Jean Lino Manoscrivi.
Ça raconte beaucoup d'histoires.
Oui,
hein.
Je crois que Yasmina Reza s'amuse très légèrement avec des noms qui paraissent dire énormément, mais en même temps, ça n'a aucune importance. Elle a assez de distance et d'ironie pour ne pas écraser ça sous Manoscrivi. Car il y a un homme qui s'appelle Jean Lino, qui est extrêmement concret, extrêmement précis. Et cet homme-là, donc, se retrouve au milieu d'une quarantaine de personnes, chez elle, Elisabeth, avec sa femme est descendue aussi, donc, de l'étage du dessus. Et quelque chose va vriller dans la soirée, ou plus précisément dans ce couple, et ça va vriller, je le maintiens, autour de poulet. Car Jean Lino raconte une scène où sa femme, selon lui, s'est ridiculisée quand elle a demandé dans un restaurant si le poulet qu'on leur servait était bio, mais outre cela, si ce poulet avait vécu comme avait vécu une vie heureuse, avait vécu libre. Je cite Yacine Arreza, donc c'est Jean Lino qui parle. « Quand le serveur est parti, j'ai dit à Rémi pour que Mamie Lydie, la femme de Jean Lino, nous autorise à manger du poulet. Maintenant, il faut que le poulet se soit perché. » Car elle dit « Il faut qu'il soit perché dans les arbres, qu'il ait vécu librement, qu'il ait couru. » Le petit a demandé « Pourquoi il faut que le poulet se soit perché ?» Elle a dit « Parce qu'il est important que le poulet ait eu une vie normale de poulet. » Je veux savoir s'il a mené une existence aérée et conforme à son espèce. Et au fond, Yacine Arreza, en parlant de ce poulet, qui est la source de la dispute, qui va tourner par cette drôlerie lugubre, au fond, d'un couple qui se déchire beaucoup plus profondément qu'on en a l'air, qui donc va tourner en tragédie, à travers cela, elle vient de définir son sujet. Son sujet, c'est ce que c'est qu'une vie normale de poulet, ou plus précisément, parce qu'il y en a plus dans le livre, d'être humain, qu'est-ce que c'est qu'une vie conforme à notre espèce. Ce qui me frappe beaucoup quand Yacine Arreza sort un roman, c'est qu'on est tous assez... Enfin, que je lis 10 interprétations absolument différentes de ce qu'elle fait. Au fond, Yacine Arreza a écrit de manière tellement limpide, tellement apparemment simple, et en réalité simple, tellement précise, concrète, incarnée, que cela perturbe complètement les capacités d'interprétation. Alors que, au fond, c'est la lettre volée, tout est sur la table, très clairement, et... Une seule chose traverse tout ce livre et lui donne son unité. Je reviendrai peut-être sur sa structure et sa forme qui est dans le mouvement perpétuel, ce qui rend aussi très difficile son analyse au fond. Mais il y a cet axe, ce fil central qui fait de Yacine Arreza une romancière d'ordre métaphysique, alors que souvent on la traite comme une pure satiriste, une pure observatrice des mœurs humaines. En réalité... Du début à la fin, et du début de ce très beau début sur la photographie, sur notamment Robert Frank, sur ces portraits d'Américains d'autrefois, tous morts aujourd'hui, mais figés dans le mouvement et dans le très concret, justement. Elle prend Robert Frank comme une sorte de double photographique de son propre travail. Une seule question traverse tout ça. On continue la question de la condition, de ce qu'elle appelle pour les poulets une existence conforme à son espèce. Et donc, j'y reviendrai, mais c'est quoi ? Et c'est en permanence la conscience... claire, nette, constante de la mortalité. Et un meurtre est au milieu de ça, mais le meurtre n'est pas ce qui révèle la mortalité. Le meurtre n'est vu qu'à travers cette vision plus générale de l'ensemble de l'humanité qui s'agit tout à fait en vain, de manière tout à fait absurde dans ces pages. Une humanité qui se défait à mesure qu'elle avance. Et c'est ça le vrai thème de Yacine Arreza. Et c'est vraiment ça qu'elle dit à travers cette histoire de poulet. Mais j'y reviendrai.
Alors, Daniel Martin, on a entendu vous écouter avec... Force mine, par contre, que
oui,
nos éditeurs peuvent pas voir.
J'ai extrêmement épaté. J'ai vu qu'il y avait abondance de papier et d'enthousiasme autour de ce livre, comme si Reza, Yacine Arreza, devait se porter comme ça, très chic et très haut en cette rentrée. Moi, personnellement, j'appelle pas ça un roman, j'appelle ça une tentative d'épuisement du lecteur. C'est vrai que ça a assez bien marché. Parce
avec vous.
Que si je n'avais pas eu à lire ce livre pour cette émission, j'aurais arrêté très vite. Je trouve que Yacine Arreza est tout sauf une romancière, et là elle le prouve vraiment. Jusqu'à maintenant, elle a fait des objets qui étaient plus des séries de portraits, séries de monologues. Je me souviens plus Heureux les heureux, par exemple. Bon. Alors, quand elle a un personnage, très bien. Ici, le premier tiers pour cette fameuse fête. Donc, on a le mari, la femme, les voisins, la grand-mère, la sœur, la copine, l'amant, la cousine, etc., etc. Il y a un magma de personnages. Elle ne maîtrise absolument pas ça. Et puis, ce qu'elle dit, alors, deuxième tiers du livre, moi, je le trouve assez catastrophique aussi. Ça s'éclaircit au troisième tiers parce que finalement, elle revient sur une gamme qui est plus proche d'elle, c'est-à-dire il y a très peu de personnages. Et là, ça va à peu près. Moi, je ne sais toujours pas ce qu'elle veut dire, si ce n'est qu'elle parle de la solitude des êtres. Alors, c'est appuyé, comme on ne peut pas se permettre, parce que ce thème de la solitude est repris avec ce photographe américain. Moi, je trouve ça vraiment très très bien de reparler de ce photographe qui est peut-être un peu oublié, qui a une œuvre, etc. Bon, c'est formidable. Et c'est décliné sur tous les tons, tous les registres. L'homme est seul. Bon, ça,
ce n'est absolument pas ça.
C'est une de ses grandes thématiques. Et alors, j'avais lu un papier.
Essayez de trouver l'endroit où elle dit ça. Ça sera plus intéressant.
J'avais lu un papier très très enthousiaste dans lequel le journaliste disait qu'il n'avait pas trouvé la raison du titre Babylone. Alors, la raison du titre, elle est page 153. Et c'est une citation de la Bible. « Aux rives des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis, nous avons pleuré, nous souvenons de Sion. »
Oui, c'est une chanson de Bonnet-M.
Là, on est bien, dans...
Ah, c'est Bonnet-M qui a écrit l'Epsom.
On est bien dans...
Pas entendu, cette chanson.
On est bien dans l'abandon, la solitude. Enfin, cette thématique de la
solitude... Je vous rappelle, Daniel, qu'il y a dans ce psaume un
permanent.
Nous, ce qui rend un peu difficile l'analyse par la solitude.
Il relie du coup.
Non, c'est le psaume le plus connu peut-être de la Bible, qui est le psaume de l'exil. C'est même son nom classique. Il me semble que le thème de l'exil l'emporte légèrement sur le thème de la solitude dans ce psaume qui parle de la condition d'un peuple et non d'un individu isolé.
L'exil, l'abandon, la solitude. On est quand même dans ce livre. On est quand même sur ces thématiques.
Ah si tout est dans tout. Yasmina Reza n'est réciproquement pas une romancière.
Et alors, je trouve que tout ça est traversé par des grandes réflexions, alors que moi qui me laisse quand même assez imperméable, du genre ce ne sont pas les grandes trahisons, mais la répétition des pertes infimes qui est la cause de la mélancolie. Bon.
Je vois les grands yeux de Daniel Martin, puis moi je vois le livre qui est posé à côté de lui, Laetitia, je me dis qu'il va y avoir un match retour tout à l'heure. Pourquoi ?
Il y a un passage à la page 50. La thématique du sapin. Vous vous souvenez du passage sur le sapin ?
Oui.
Le sapin. Alors là, s'il n'est pas question de solitude, qu'est-ce qu'il y en a ?
Non, il y a bien question du temps.
Un passage se compare à un sapin qui
vie.
Est dans sa grande forêt. Et au fond, il termine comme sapin de Noël, puis sur le trottoir.
Vous ne voyez pas que le passage des saisons sur le sapin peut assez facilement se comprendre comme une question de temps. Enfin, peu importe.
Et là, on a aussi.
Daniel n'a pas fini.
Non, on a aussi.
Daniel, les citations à charge, on n'aime pas ça ici, vous savez.
Je suis persuadé. Celle-ci, je pense que pour Fleuron, elle n'est pas du tout à charge.
Oui.
Qui
vous,
peut
oui.
se dire en sécurité, point d'interrogation, tout est incertain, c'est la condition même de l'existence. C'est vertigineux quand même.
Alors moi j'aimerais beaucoup que cette émission se transforme en entretien avec Daniel Martin pour essayer de comprendre ce qui fait qu'une telle phrase lui paraît ridicule. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un livre, selon vous, Daniel ?
C'est une attitude et une banalité sans nom.
Ah, ben oui. Justement.
Allez-y, Florent.
Je vais parler. En fait, je renonce à cette idée d'entretien parce que j'oubliais que
vous préférez parler seul, Florent.
L'interviewé doit répondre, j'oubliais ce détail.
Allez-y.
Vous avez dit, en commençant, une chose objectivement fausse. Vous avez dit, la presse entière se déchaîne dans les louanges de ce livre. C'est totalement faux. Ce livre s'est fait démolir dans plusieurs journaux, y compris par des gens, c'est le thème qui revient le plus souvent, qui disent, on en a par-dessus la tête du brillant des sentences de Yasmina Reza. Donc, réunissez-vous, mettez-vous d'accord. Mais moi, j'observe que c'est ce que je disais, on arrive tellement pas à définir ce qu'elle fait, au fond, c'est un phénomène assez mystérieux, qu'on l'attaque par les côtés les plus contradictoires. Bon, je pense, moi, je suis plus proche de vous, en effet, dans l'idée de la banalité. D'ailleurs, c'est ce qu'elle-même répète dans tous les entretiens. Elle ne cherche absolument pas. Mais d'ailleurs, quelle est votre idée de la littérature pour croire qu'il faut que chaque phrase soit d'une extraordinaire singularité, d'une nouveauté radicale. Vous croyez vraiment ça? Vous trouvez que les grands écrivains sont ceux qui alignent des sentences nouvelles qui révolutionnent la pensée du monde? Non. La question, c'est de composer.
Ce magma est ponctué et très volontairement de phrases qui ont une place particulière, de forme de sentence.
Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Quand on apporte comme ça, en quelque sorte, des phrases en exergue, on ne peut pas être dans cette platitude-là.
Elle ne met justement pas. Tout l'art de Yasmina Reza, qui fait d'elle, pour moi, une des plus grandes romancières de notre époque, donc c'est vrai que nous sommes relativement opposés, vous et moi, c'est précisément un art de la composition qui est d'une densité absolue. C'est-à-dire qu'aucune phrase chez elle ne se met en avant par rapport aux autres. L'ensemble, ce qu'on ne voit pas en fait dans ce roman, c'est qu'il paraît d'une linéarité parfaite, et qu'il est stylistiquement d'une extrême limpidité, et que pour autant, en fait, c'est un roman gigogne. Ce sont des poupées russes, ce livre. Certains, comme vous l'avez fait un peu, le divisent en tiers, disent celui-ci ne marche pas. Ah, quand il y a le crime, ça devient autre chose et c'est moins bien. Enfin, j'ai tout entendu, encore une fois, les choses les plus contradictoires. Mais la réalité est qu'il n'y a pas qui n'est pas fondé sur le développement continu d'une intrigue, mais sur l'emboîtement de micro-scènes, de l'essentiel, en fait, du travail qu'elle fait, ressorti plutôt au monologue intérieur qu'à la composition de scène. Et ce qui rend le livre passionnant de bout en bout, je l'ai déjà relu deux fois, je vous assure que certains lecteurs ne le lâchent pas, c'est qu'on est pris. On est dans une sorte de glissade perpétuelle. Vous vous souvenez peut-être de ce livre d'elle, parmi ces choses insignifiantes que vous citiez avec mépris, le roman en fait qui s'appelait Dans la luge de Schopenhauer, qui avait été aussi monté au théâtre, mais qui était un roman au départ. Cette idée de luge, de chute infinie, est une sorte de figure permanente chez Reza, mais elle est surtout la structure même de son livre. Quand on prend deux pages d'elle, il faut toujours faire. Je recommande aux auditeurs de faire cette expérience. Prenez le haut d'une page à gauche et le bas de la page à droite. Et vous serez très surpris et vous serez très curieux de voir comment elle a pu passer de l'un à l'autre. Il y a une sorte de permanent coq à l'âne dans son texte qui est pour autant en permanence tenu parce que tout converge, tout est pris par une force centripète, quelque chose qui renvoie tout au centre. Le centre étant justement cette figure de la chute, du passage du temps, de la destruction et de la mortalité. Vous savez, à un moment... Je dis juste une notation de Reza. Elle se souvient d'une visite au cimetière à l'île aux morts de Venise, au cimetière de Venise. Elle voit une tombe sur laquelle il est écrit. Enfin, peu importe si j'ai pas la citation exacte.
Vous la connaissez par cœur déjà.
À peu près. Enfin bref, il y a une plaque mémorielle qui dit tu seras pour toujours dans nos cœurs. Et elle remarque, mais qu'est-ce que c'est que ce toujours? Est-ce que les vivants qui ont écrit cette plaque croient qu'ils sont d'une espèce différente de celui qui est mort? Est-ce qu'ils croient que le souvenir qui est dans leur cœur ne va pas disparaître autant que celui dont ils se souviennent? Est-ce qu'ils croient vraiment qu'il y a d'un côté les vivants et les morts? La glissade perpétuelle, le passage d'une vie à une autre, d'un point de vue à un autre dans ce livre, est toujours pris sous ce prisme de la mortalité comme évidence, comme certitude. Et c'est un travail de destruction des illusions qui fait mouche à chaque fois parce que et il se concrétise et il montre la réalité de la condition humaine en permanence dans le détail de la vie.
Daniel Martin.
Et ça, alors, ça donne l'unité absolue à ce texte qui fait une virevolte en même temps.
Je trouve ça absolument formidable. Simplement, pour sortir ça, il faut un écrivain. Yasmina Reza, à mon avis, n'est pas un écrivain. Ce qui donne que le début, mettons qu'on ne fasse pas des tiers, le début de ce livre... on a quand même en permanence, on passe en permanence. C'est quelque chose qui est par ailleurs très intéressant. On passe en permanence du présent de cette femme. Quand vous parlez de monologue intérieur, je trouve ça très bien. Cette femme donc vient de perdre sa mère. Hein. Donc il y a à la fois la perte de la mère, mais il y a aussi le déménagement de l'appartement de la mère avec la voisine qui est là. Est-ce que cette voisine prend un objet, n'en prend pas? Mais ce sont des choses effectivement portées par un écrivain. Ça peut être passionnant. Il se trouve que là, ça devient une sorte de magma. On ne sait plus qui est qui très rapidement. Et puis, globalement,
C'est un argument polémique. C'est faux. La scène de la fête.
Ça n'est pas porté.
On ne va pas vous réconcilier là-dessus.
C'est un livre très important, celui-là.
Ça n'est pas porté. Ça n'est pas structuré. Pour porter ça, il faut vraiment quelqu'un. Je veux dire, l'histoire de ces noms totalement ridicules qu'elle donne à ces personnages. On peut pas faire autrement.
C'est pas vous qui délivrez les certificats de qui est écrivain et qui n'est pas écrivain. Ça peut vous toucher ou ne pas vous toucher. Vous pouvez être sensible à son écriture ou pas. Vous ne délivrez pas le brevet.
Et pardonnez-moi, mais j'aimerais aussi que vous argumentiez pour expliquer ce que c'est un écrivain.
Ces situations et les rendre ne serait-ce que compréhensibles. Là, non. Parce qu'effectivement.
Franchement, vous y mettez de la mauvaise volonté, parce que c'est quand même très facilement compréhensible. On sait où on est, qui est qui.
Absolument. C'est une grande lapidité. Beaucoup trop compliquée pour elle. Mais non, elle est capable de suivre un personnage, elle ne peut pas suivre.
C'est trop compliqué pour vous, Daniel, peut-être.
Elle ne peut pas suivre plusieurs personnages.
Je ne peux pas vous laisser dire ça.
Mais alors, vous avez 30 secondes.
Là, vous désinformez le.
Je compte.
Il a déjà pris 3
secondes. Vous leur avez fait croire depuis le début que les 60 pages du début étaient consacrées à la fête. Et donc, était rempli de personnages. C'est totalement faux. Ça occupe à peu près 30 pages dans l'ensemble du livre. Ce n'est pas le début. Le début ne parle que de deux personnages à la fois en général. Et la fête, qu'il y ait des personnages secondaires, ça ne devrait pas vous traumatiser. Ça arrive quand même. Mais que dans la fête elle-même, tout soit focalisé pour l'essentiel sur Elisabeth et ce couple de Jean Lino et Lydie qui va devenir un couple infernal, est une évidence.
Enfin, fin des 30 secondes. Hein. On ne va pas vous réconcilier sur Yacina.
Il a largement dépassé.
Non, stop.
A terminé sur le
livre. Oui, on a terminé sur le livre parce que là, on a déjà un tel retard pour la suite.
J'ai eu un temps de parole extrêmement.
Vous avez été définitif, Daniel.
J'ai eu un temps de parole très réduit.
Vous avez dit que c'était pas un écrivain, que le livre était incompréhensible. Oui, je crois qu'on a compris le propos, Daniel.
Je terminerai sur ce que je disais au départ. J'appelle ça tentative d'épuisement du lecteur et ça marche très bien.
Bon, ça va être l'épuisement du temps de cette émission.
On va faire une publicité avec ça. Ça marche très bien. Signé Daniel Martin.
Babylone de Yasmine Areza, publié chez Flammarion.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous évoquerons tout à l'heure Laetitia, d'Yvan Jablonquin, et nous évoquerons aussi plus rapidement Livre pour adultes de Benoît Dutertre et Charlotte Delbo de Ghislaine Dunant. Pour l'heure, nous entrons dans le petit salon pour y retrouver Lucille Comeau. Bonsoir, chère Lucille. Et si on s'engueulait un peu, vous et moi, non, ça pourrait vite tourner au cauchemar,
je
non?
Je sais pas si mon sujet est propre à l'engueulade, mais peut-être que c'est bien.
On peut s'engueuler sur tout, vous savez.
Ça va calmer le jeu.
Ça a calmé le jeu un peu avec un cauchemar, quand même.
Oui, le cauchemar du second roman, du deuxième roman ou du second.
Ah oui, c'est selon. Déjà, oui.
Quand on observe les listes des livres dont on parle lors des rentrées littéraires dans les journaux, il y a principalement deux types de romans, les premiers romans et les romans de grand nom. Les deux exercent la même fascination pour des raisons différentes. Les jeunes écrivains sont autant de poulains sur lesquels on parie. Cette année, c'est Gaël Faye, clairement, qui est dans ce rôle. Ils sont frais. Et les grands, on les aime ou on les déteste déjà et donc on les attend au tournant. Mais on parle nettement moins des deuxièmes romans. Le seul dont on parle beaucoup en ce moment, c'est celui de Leïla Slimani, Chanson douce, qui paraît chez Gallimard. Et c'est d'ailleurs le seul deuxième roman qui soit dans la première sélection du Goncourt, publié mardi dernier, et également dans celle du Renaudot. En revanche, c'est vraiment une surprise, le prix Médicis, dont la sélection a été publiée il y a 3 jours, met en avant 4 deuxièmes romans, dont on avait jusque-là très peu entendu parler. Portrait du fugitif de David Boratave, Drama Queen Palace de Stéphane Corvisier, Nouvelle jeunesse de Nicolas Hidier et Le bon fils de Denis Michlis. En 2000, Daniel Pénac avait créé très sérieusement un prix du deuxième roman, mais ça n'a pas pris. Justement, et le prix a disparu. On peut être gré au prix Médicis de reprendre le flambeau. De fait, le deuxième roman, c'est difficile. C'est d'abord difficile à écrire, difficile pour les auteurs qui en parlent souvent comme d'un sacerdoce. Jean-Marc Roberts, en 4e de couverture de son premier roman, Petit Verlaine, écrivait « Et votre deuxième roman, dites un peu, Roberts, vous y pensez. Il n'y aura pas de deuxième roman, je passerai directement au troisième. » Beaucoup d'écrivains évoquent la difficulté à penser un nouveau roman. Doit-on s'obstiner dans le style, voire dans le sujet du premier? Faut-il faire tout à fait autre chose? Beaucoup évoquent également la difficulté à présenter un deuxième roman à un éditeur. Il arrive qu'un roman roman, un premier soit extrêmement soutenu, un écrivain lancé, puis lâché si le deuxième roman n'est pas tout de suite satisfaisant, ce qui pose aussi la question intéressante de la professionnalisation des écrivains. Un deuxième roman, c'est souvent un moment charnière, un moment test où on se demande si on peut se consacrer uniquement à l'écriture. C'est pas toujours vrai, cette histoire de deuxième roman qui n'est pas visible. Pour prendre une des grandes têtes d'affiche de cette rentrée littéraire, Léonora Miano, elle a été révélée par son deuxième roman qui s'appelait Contour du jour qui vient. Il y a aussi les grands qui ont écrit un grand premier roman et un grand deuxième roman. Réfléchissez, vous verrez, il n'y en a pas tant que ça, mais Céline, premier roman, Voyage au bout de la nuit, et deuxième, Mort à crédit. Alors vous, est-ce que vous avez lu un bon deuxième roman cette saison? Et surtout, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes quand vous lisez le deuxième roman d'un auteur dont vous aviez lu le premier?
Voilà des questions qui importent. C'est vrai que la couverture médiatique est en scalée. Daniel Martin, tout fair play, donne la parole à Florent Georgescu, c'est ça que
pour
vous
la reprendre
non,
parce qu'il
va parler pendant trois quarts d'heure, je ne pourrais pas parler, je ne pourrais pas m'exprimer, je repartirai si cette émission extrêmement frustrée.
Deuxième roman.
J'ai un tout petit problème avec ça parce qu'en fait, je me rends compte que depuis que je travaille sur les livres, je n'ai jamais réfléchi en premier roman, deuxième roman, etc.
Premier roman, non, vraiment ?
Premier roman, quand même. Tous les ans, je me dis, je vais faire une thèse à part, premier roman, et je me rends compte, en fait, que je ne le fais jamais parce que c'est une façon, peut-être, de considérer simplement l'auteur ou un livre. Alors, il y a beaucoup de gens qui écrivent un premier roman merveilleux et ensuite qui disparaissent, mais ce premier roman reste. Et puis, il y a des gens qui l'ont revendiqué. Je pense à Little, par exemple, qui a toujours dit qu'il n'écrivait pas d'autre chose, ou à Onati Aroy, je crois, ou Roy. Cette romancière
indienne.
Elle a toujours dit que ça bon. Ensuite, la question du deuxième roman, donc en général, je me la pose pas non plus. Et je vois que c'est une question qui revient très souvent. Je me demande, mais je pense que Florent va nous éclairer sur cette question. Je me demande si ça n'est pas un faux problème. Moi, je trouve qu'un auteur, un écrivain, c'est quelqu'un qui fait sa trace, qui fait son chemin. Or, il y a des gens qui ont tout dit en un livre, ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils avaient écrit. Oui. Bon, il faudrait avoir la sagesse pour beaucoup de gens d'ailleurs de s'arrêter. Mais
tout le monde n'avait pas écrit Bonjour Tristesse ou Place de l'Étoile.
Oui, mais pensons à des gens, par exemple, des gens que j'aime beaucoup, comme Olivier Rosenthal, qui a écrit un premier roman que personne n'a pu lire, a commencé à être perçu avec le deuxième, Mes petites communautés. Mais depuis, c'est quelqu'un qui trace sa voie. Je trouve que là, on a quelqu'un d'authentique.
On l'a aimé dès le premier livre, on est d'accord.
Ah non, le tout premier était lisible.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et Léonora Miano, on n'a pas attendu son deuxième, par ailleurs.
Hein. Oui, ce que j'aime dans ce métier, c'est effectivement de voir apparaître des auteurs. Ensuite, je pense à quelqu'un comme Stéphane Audigui, qui fait un premier roman qui est absolument complètement convaincant. Je ne peux pas dire que ses autres romans m'aient autant séduit. Mais un premier roman qui reste, je trouve, c'est quelque chose qui reste comme ça.
Je suis presque totalement d'accord avec Daniel.
Écoutez, on va s'arrêter là. on ferme le petit salon.
Il y a quelque chose en effet d'artificiel dans cette notion. Il faut voir que c'est de plus en plus une notion commerciale. C'est un instrument commercial, le premier roman. D'abord, il y a une question à laquelle il faut
penser. C'est d'autant plus difficile de faire le second ou le deuxième.
Mais à vrai dire, c'est... J'ai vérifié, il y a pour cette rentrée 66 premiers romans. Vous pensez bien.
Est-ce que vous avez le chiffre des seconds?
Non.
Non, parce que ça, on l'a pas.
Lucille,
non,
là, mais voyez. Approcher, mais non, bien sûr, il n'y a pas de liste. Mais précisément, on fabrique une catégorie. Il y a un critère absolument important à avoir en tête. C'est ce qu'on appelle, pour parler boutique, c'est ce qu'on appelle un historique de vente en librairie. 66 premiers romans, c'est malheureusement 60 qui se vendent extrêmement mal. Beaucoup, et une part que je ne vais pas chiffrer, qui passera totalement inaperçue. Le deuxième roman sera plus difficile pour cela. De toute façon, le contraste là n'existe quasiment plus. Parce qu'au fond, ce qu'on a en tête quand on parle de la difficulté du deuxième roman, c'est quand le premier a été remarqué. Sinon, il n'y a pas de difficulté plus grande pour le deuxième que pour le premier.
Difficulté à être publié, peut-être.
Mais voilà, le problème, c'est que le premier roman autorise tous les espoirs parce que l'auteur ne porte pas derrière lui un passif de vente. L'éditeur peut venir devant les libraires, devant tout le système commercial, pour expliquer qu'il y a toutes les raisons d'y croire, que ça va cartonner, que ça va être merveilleux.
Le premier n'a pas marché,
de plus en plus dur.
Par contre,
voilà,
le second
absolument.
Est formidable.
Et c'est là que je rejoins totalement Daniel. Tout cela, la question, c'est est-ce qu'on s'intéresse à l'image qu'on a d'un auteur, par exemple l'image caricaturale qu'il a de Yasmina Reza, ou au texte. Si on s'intéresse au texte, cette histoire d'historique de vente est un des gros problèmes de la vie éditoriale française. C'est ce qui empêche de découvrir certains très grands livres qui peuvent être les 7e, 14e romans de leur auteur. Mais si on a enfermé l'auteur dans une case à part, si on l'a marginalisé, plus personne ne va aller le voir. Et tout simplement parce qu'il sera très peu mis en place dans les librairies. Donc il y a autour de cette dualité premier-deuxième roman une illustration, je trouve, d'un système de blocage, de découverte des textes pour eux-mêmes, qui est assez dangereux.
C'est authentiquement la fonction critique, je trouve.
Exactement. C'est ce que je pense aussi. Notre travail à nous, c'est de dépasser ça.
Un auteur qui publie des choses pas passionnantes, 3-4 livres pas passionnants, et qu'on suit parce qu'on attend quelque chose de lui, quand enfin il donne son grand livre, c'est là où il faut être là.
C'est notre travail à nous, et c'est le travail justement des libraires qui doivent pouvoir remonter le courant de cette fatalité, quoi.
Mais pour revenir sur
il y a des très bons premiers livres. Moi, je me souviens, ça remonte il y a 30 ans. Jean-François Merle avait écrit un livre qui s'appelait Cale sèche, qui avait d'ailleurs eu le prix du premier roman. Il était édité chez Arléa. Je l'ai croisé plusieurs fois. Il travaillait dans le milieu d'édition plusieurs années en lui disant alors, quand le second. Et je ne sais pas, il faudrait vérifier s'il a écrit ce deuxième livre. Mais peut-être que, il était l'homme d'un roman et c'est possible aussi.
C'est d'ailleurs, cela dit, le point avec lequel j'étais moins d'accord avec vous, Daniel, sur le garçon qui livre tout, en effet, dans son premier. C'est une idée. Il y a une idée autour du mythe du premier roman, un peu romantique, du talent pur. Il y a l'écriture est un travail, un métier aussi qui s'apprend. Et je crois quand même que en général, le sixième roman est meilleur que le premier. En général, pas pour tout le monde évidemment.
Mais c'est le comment.
Il y a une maturation.
Est-ce qu'il peut pas y avoir un effet aussi justement sur cette question du si on va à l'encontre du mythe selon lequel le premier roman a des choses en germe qui peuvent pas être reproductibles. Est-ce que quand vous lisez le deuxième roman d'un romancier dont le premier vous avez plus et qui vous plaît pas, est-ce que ça vous fait revenir sur votre opinion du premier? Moi, ça me fait ça, par exemple.
Oui, ça peut arriver.
Des noms.
Parce que vous parliez de germes, justement, ça peut remettre en cause objectivement l'espoir qu'on mettait, c'est-à-dire certaines qualités en germe d'un premier roman. Si un type a écrit un chef-d'œuvre à son premier roman, disons Céline, comme vous le disiez, je ne serais pas déçu si par malheur je n'aimais pas Mort à crédit. Mais si je m'étais dit là, je vois une œuvre qui se dessine, là il va se passer quelque chose et que ça ne se passe pas, en effet, je me dis que ce que j'avais vu comme espoir était un peu moins un espoir que ça dans le premier et plus illusoire.
Après,
vous avez cité le deuxième roman de Boratav, par exemple. J'avais beaucoup aimé son premier roman. Celui-ci m'a énormément déçu. Je suis pas loin de cette opinion. Mais sauf que, encore une fois, il y a le travail, il y a le fait qu'un écrivain peut se tromper de livre et que le troisième peut être mieux.
Cette question du deuxième livre est compliquée encore par quelque chose parce que un auteur n'est pas toujours publié sur son premier livre.
Oui. Alors
on peut très bien. Éditeur peut refuser, par exemple, deux livres et prendre le troisième. Bon, le troisième devient donc le premier livre.
Celui qu'on a.
C'est généralement le cas.
Et ensuite, il va publier les précédents, par exemple.
Ah, oula. Donc, oui, là, c'est... Ça arrive, ça?
Il arrive très souvent qu'un deuxième livre soit en fait le premier.
Le premier retravaillé, par exemple.
J'ai
connu ça.
C'est-à-dire que...
Ça paraît un peu curieux,
d'ailleurs. Ah oui, mais c'est un phénomène qui est assez courant.
Il y a aussi, pour le coup, le cas du premier roman qui a tout à coup beaucoup de succès. On demande tout l'éditeur à très envie de publier rapidement quelque chose. Et dans ce cas, le précédent...
Je parle d'expérience pour avoir fait rencontrer un auteur à qui je disais que son deuxième livre, j'ai dit, là, vous avez fait des progrès en écriture, beaucoup plus souple, etc. Il m'a laissé parler en me disant en fait, vous savez, je l'ai écrit bien avant. Alors, en fait, il fallait inverser le processus.
C'était pas une très bonne nouvelle pour lui.
C'était pas une très bonne nouvelle pour lui.
Et après, il y a les emballements médiatiques qu'on pense à Édouard Louis, par exemple. Le deuxième livre. Oui, mais j'ai lu dans vos pensées.
Son deuxième livre a confirmé ce que nous avions pensé de son premier, c'est-à-dire que c'était nul.
Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on reparle.
C'est ça la littérature. Je comprends tout.
Il faudra qu'on reparle d'Édouard Louis un jour, mon cher.
On en parlera pour le troisième.
Oui. Il y en aura un troisième.
J'ai déjà un rendez-vous pour le troisième.
Que d'ennui.
Virginie Despentes.
Ah,
Le troisième subutexte.
Oui.
Il arrive un jour ou pas?
Bien sûr.
Non, mais bien sûr, attendez, ça fait des mois et des mois qu'il était censé arriver.
Elle est au cours, ça ralentit.
Non, il est
ah, bah oui, elle a eu 600 livres à lire.
La sortie est prévue?
Je pense pour le printemps. Oui.
Vous avez des informations en direct?
Bien sûr.
D'accord, très bien. Et en tout cas, je savais pas que Jean-Marc Roberts avait inspiré Brice de Nice, qui passe lui aussi directement au 3. Alors là, au moins, ils ne vont pas se disputer parce qu'ils vont parler chacun leur tour d'un livre qu'ils ont envie de nous recommander sans l'avis de l'autre. Et Daniel Martin se précipite sous son micro pour pouvoir parler. Alors tiens, voilà. Je ne sais pas si c'était le premier livre de Ghislaine Dunant, La dépression. Ça s'appelait comme ça ?
Un effondrement.
Un effondrement, enfin, qui était l'histoire d'une dépression, qui est un livre absolument magistral. Est-ce que c'était son premier publié ou
non,
pas ?
Non.
Moi, vous voyez, c'était la première fois que je l'avais lu et c'est un auteur que je chéris.
Ça, c'est un auteur absolument remarquable.
C'est pas la peine de regarder Florent-Georges Lescaut quand
non, mais
ça.
Je tends une perche, je savais qu'il écrit dans, il écrit dans de prestigieux journaux. Un effondrement, je trouve que c'est ça fait partie de ces livres qui marquent, quoi.
C'est pourquoi j'en parle.
Un livre extrêmement important, qui était quasiment passé inaperçu à l'époque. Alors j'espère qu'il a une durée longue. Et là, elle rencontre Charlotte Delbault. Charlotte Delbault, pour ceux qui ne connaissent pas, est une femme qui a été à Auschwitz pendant un an et demi et qui, 20 ans plus tard, a commencé à écrire des textes sur cette période-là. Elle a écrit le convoi du 24 janvier, c'était donc un convoi de femmes qui est parti le 24 janvier 1944. Il y avait 230 femmes, il n'y en a que quelques-unes qui sont revenues, dont elle. Et ensuite, elle a écrit une trilogie qui s'appelle « Aucun de nous ne reviendra ». Tout ça est publié chez Minuit. Et je crois que là, tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est une œuvre magistrale. Qui est très méconnu parce que tous les écrits sur les camps ont eu beaucoup de peine à être publiés, à être reconnus. Et elle, en plus, comme femme, c'était un petit peu plus difficile. Minuit l'a publié et ça, moi, c'est une œuvre que je recommande à tout le monde. C'est une œuvre extrêmement puissante et violente. Et donc, Charlotte Delbault a... En fait, très peu de gens connaissent ce personnage. Ça paraît étonnant. Très peu de gens la connaissent. Connaissent son œuvre, je veux dire. Et la rencontre avec Ghislaine Dunant ne pouvait donner qu'un livre extraordinaire. Enfin, bon, parce que là, c'est une biographie, mais c'est pas une biographie. Elle est née à tel endroit, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire toutes ces années pendant lesquelles elle n'écrit pas ce qu'elle a vécu, puis la manière dont elle écrit, sachant que Charlotte Delbault était une personnalité... issue d'un monde relativement modeste. C'est quelqu'un qui découvre... Elle a été assistante de Louis Jouvet, donc c'est quelqu'un qui découvre le verbe, la langue avec Jouvet, et elle en a été totalement passionnée. Et en même temps, c'est quelqu'un qui garde, quand on écoute ses interviews, une sorte de gouaille comme ça, parisienne et populaire. C'est quelqu'un qui adorait la vie, ce qui compte énormément, vu la gravité des choses qu'elle écrit. Et donc, Ghislaine Dunant arrive à donner tout ça. Et c'est un livre, je trouve, dans cette rentrée magistrale. Moi, j'aimerais voir... alors, je ne la vois pas apparaître, par exemple, dans la liste de prix. À moins que j'ai mal lu. Je trouve ça absolument désolant, quoi. Et qu'on republie, effectivement, un effondrement. Je ne sais pas en quelle année ce livre a été publié, mais c'est vraiment quelque chose.
7 ou 8 Donc, ans, 8 ou 9 ans.
Je voulais redire mon admiration à cette dame et à son travail.
Alors vous dites Ghislaine, moi je dis Ghislaine, je ne sais plus, comment on doit le prononcer.
Je ne sais pas du tout.
Je l'ai su, l'ayant reçu sur cette antenne pour parler d'un effondrement justement. Alors Ghislaine ou Ghislaine Dunant, c'est chez Grasset que paraît ce livre, intitulé tout simplement Charlotte Delbault. Florent Georgesco, c'est le moment de votre solo avec Benoît Dutertre pour Livre pour adultes chez Gallimard.
Oui, sous-titré roman, ce qui est une énormité, parce que c'est tout sauf un roman. La mode d'appeler roman tout et n'importe quoi est absolument ridicule. Ce livre n'est pas un roman, c'est un livre d'un genre que j'aime beaucoup. C'est un mélange, ce sont des mélanges. Il y a là des nouvelles, des notes autobiographiques, des textes parfois presque théoriques. Il y a de tout. C'est un livre pour adultes en cela. D'ailleurs, son titre qui est charmant parce que c'est, il ne signifie pas ce qu'il signifie d'habitude. Il n'y a pas de pornographie dans ce petit livre. Il y a simplement différentes approches du vieillissement, du passage de la vie. Là aussi, il y a une mère qui meurt au début. Il y a quelques pages sur cette mort, mais il y a aussi, c'est un livre pour adultes dans le regard également qu'on retrouve, celui des romans du Tertre, regard très sarcastique sur l'époque, sur quelques ridicules d'époque qui sont avec des nouvelles assez amusantes, dont celle sur la découverte d'une tribu dans un coin reculé de je ne sais plus où, d'ailleurs je crois d'un pays fictif, tribu que tout le monde veut défendre bien entendu comme une merveille, on veut absolument les préserver pour maintenir leur mode de vie habituel, traditionnel, et mais alors on s'aperçoit qu'en même temps ils sont d'un machisme absolument effrayant, qu'ils ont un droit de cuissage absolu, qu'en plus on fait fumer je ne sais quelle herbe nocive à des enfants de 5 ans. Bref, les ligues féministes commencent à s'emporter contre la tribu, les hygiénistes disent il faut quand même leur apprendre qu'il ne faut pas fumer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la guerre civile se fasse autour de cette tribu qui ne sait toujours pas qu'on l'observe. Tout cela avec une fin qui renverse tout de manière assez drôle. Donc ça, c'est le Duteur qu'on connaît le mieux, sans doute, mais il y a une part presque... plus intime dans le livre, qui se mêle à ça comme un complément. Enfin, il y a une sorte d'unité, il y a une sorte de complément au fond. Il donne, c'est un livre de pour adultes, parce que c'est un livre de sagesse, d'une sagesse impossible, c'est-à-dire qui ne se réunit pas totalement, qui brinque-balle un peu, qui se bricole, mais qui est une sorte de bilan d'étape à, je ne sais quel âge exactement à Duterte, mais quand la vieillesse commence à se laisser deviner, on fait un bilan, on s'aperçoit, il fait la liste de ce qu'il peut aimer dans la vie, de ses nostalgies, de certaines de ses rencontres, dont celle avec Madeleine Millot, centenaire. Le livre s'ouvre sur cette rencontre, car il y a plusieurs textes dans le livre sur son goût de ce qu'il appelle les traces, son goût pour les vieux chanteurs oubliés et retirés depuis 50 ans. Et, bref, tout cela compose un ensemble qui vraiment mérite ce titre, et il est vraiment dommage d'avoir cette naïveté, pour le coup puérile, d'appeler ça roman. C'est un livre pour les adultes qui peuvent s'intéresser à ce que les autres adultes pensent et imaginent dans tous les sens, sans avoir besoin qu'on les prenne par la main pour leur dire « voilà, je vais vous raconter une histoire ». On vous en raconte 100, et c'est une sorte de portrait de l'homme, de l'honnête homme au milieu de sa vie, qui se regarde, qui regarde sa vie et qui essaie de comprendre sans y arriver toujours. C'est un très beau livre qui, je crois, peut attacher de nouveaux lecteurs à Benoît Duterte, pour peu qu'on comprenne que c'est autre chose qu'un petit produit sur lequel on a mis roman à la hâte.
Livre pour adultes de Benoît Duterte. Le livre est publié chez Gallimard.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Deuxième dispute littéraire. Cette fois-ci, c'est bien un face-à-face autour du livre d'Ivan Jablonka, Laetitia, publié aux éditions du Seuil. La Laetitia du titre du livre de Jablonka, c'est donc Laetitia Perret, enlevée à quelques pas de chez elle, dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011. Elle n'a été retrouvée que quelques semaines plus tard, assassinée. Elle avait 18 ans, très médiatisée, à outrance, notamment par le président Sarkozy. L'affaire aussi a remis en lumière le débat sur les délinquants sexuels récidivistes, a aussi entraîné une forte mobilisation des magistrats contre les attaques qu'ils subissaient alors. Mais Ivan Jablonka, on va le voir, ne s'arrête pas à la dimension médiatique de l'affaire et va chercher, c'est son projet en tout cas, dans ses 350 et quelques grandes pages, à approcher plus près de la victime. Daniel Martin, pour commencer.
Eh bien, moi, ce livre m'a absolument passionné. J'appelle ça un grand livre, même si ce livre je lui reconnais quelques imperfections. Et
vous voulez devancer Florent pour donner les imperfections d'abord ou vous donner les qualités?
Non, commençons par l'essentiel. Je trouve que effectivement, il travaille sur ce qu'on appelle un fait divers, c'est-à-dire la disparition d'une jeune femme qui est violée, assassinée, découpée, etc. Ce fait divers dans son livre, il l'utilise comme fil narratif. Alors, ça peut être parfaitement contestable, c'est très bien fait, je trouve, dans ce livre. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne se souvient pas de cette histoire, il la reconstitue petit à petit, on le suit. Mais le plus important, c'est effectivement, dans ce qu'il apporte comme réflexion et comme document, sur l'état de la société française aujourd'hui. Et je trouve ça absolument remarquable, c'est-à-dire on a employé le terme de radiographie, oui, je trouve que c'est ça. C'est-à-dire qu'il montre de quelle manière il y a un décalement, un déplacement qui s'est produit petit à petit, qui fait que le politique est devenu un politicien, la presse est devenue un média et un appel à clics, et qu'il y a une délocalisation comme ça de quelque chose d'essentiel vers quelque chose de totalement anecdotique, et cette anecdotique est en train de prendre le pas. C'est par exemple la question de Nicolas Sarkozy, qui est donc président à l'époque, il pourrait, je trouve, faire des attaques directes à la personne. Or, c'est pas du tout des attaques à la personne qu'il fait, mais il le prend en tant que symptôme de cette dérive. Et je trouve qu'il travaille beaucoup par symptômes et par analyse de choses comme ça. Sur les rapports entre le fait divers, donc quelque chose qui est forcément sordide, la presse et le public par exemple, il a des analyses qui sont extrêmement pertinentes. Ça sert à quoi un fait divers dans la société? Qu'est-ce que ça alimente? Qu'est-ce que ça va chercher? Qu'est-ce que ça comble? Et je trouve qu'il se met là, dans la ligne des grands textes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre que Joël Losfeld avait republié dans sa collection de poche de Jean Mecker sur l'affaire Dominici, qui s'appelle l'affaire de l'URSS, je crois. Là, on est tout à fait au début de ces dérives médiatiques. Et Jean Mecker pourrait écrire des pages, de ce livre. Il y a eu aussi un très beau texte sur l'affaire Grégory, le bûcher des innocents, me semble-t-il. Et il y a quelque chose là qui est extrêmement important. Je trouve que c'est important que ce livre paraisse maintenant, au début d'une année électorale, c'est-à-dire de voir à quel point le politique n'a plus rien à voir avec la vie. Et la vie, là, est présente partout, la vie ordinaire hein, des gens, et des gens ordinaires. Et il y a aussi quelque chose qui me passionne dans ce livre, qui est toute une réflexion sur le langage. On n'emploie pas le même langage dans les pages du Monde, à TF1, à e-télévision, et dans ce monde-là, assez misérable, dans lequel vivait Laetitia, qui est donc morte. Et ces phénomènes de langage créent des incompréhensions, et ces incompréhensions, personne ne cherche à les élucider. Et je trouve que Jablonka fait ça quand même. Oui.
Je vois, il y a un temps de suspens, donc je vais donner la parole à Florent Georgescu.
Il est en train de bouillir, c'est à lui.
je ne boue pas du tout.
Non.
Simplement, c'est les aspects que vous mettez en avant ne sont pas ce qui m'intéresse le plus, sincèrement. Et je ne crois pas que ce soit quand même la part essentielle du livre. Ce n'est pas un livre qui se sert du support d'un fait divers pour penser la société. C'est un livre qui essaie d'approfondir au maximum le fait divers en apportant le plus d'éléments de connaissances concrètes de ce fait divers. Il faut dire que Jablonka a fait ce qui me paraît d'ailleurs ce qu'il réussit le mieux dans ce livre. Il a mené une enquête de type journalistique sur cette affaire, qui est une enquête aussi complète que possible, semble-t-il, en allant rencontrer la
quasi-totalité des témoins et des acteurs, c'est-à-dire les juges, même les journalistes, ils montrent très bien comment aussi un fait divers devient, c'est un des aspects passionnants du livre, comment un fait divers devient fait divers national, comment ça s'embrase, et ils le montrent de proche en proche à travers la première dépêche AFP, etc. C'est tout à fait passionnant. Bref, il réunit, il est allé sur le terrain, il est allé partout, il a vu tout le monde, ou presque tout le monde, et ce qu'il fait, c'est le portrait d'un fait divers, et à travers ça, moi, ce qui m'a le plus frappé, et que je trouve le plus réussi dans ce livre, c'est la recherche de la vérité de la vie de Laetitia. C'est quand même lui, Jablonka, il insiste énormément dans beaucoup d'endroits de son livre, il fait ce livre frappé par le destin de cette jeune fille morte à 18 ans, donc assassinée et démembrée, violée, ça n'a pas été prouvé par la justice, on ne sait pas, par ce Tony Meillon, qui était un criminel, enfin qui était d'ailleurs une simple petite frappe au départ et qui deviendra un criminel absolument horrible, mais auquel il ne s'intéresse pas particulièrement. D'ailleurs, il ne dit pas, mais il n'a, semble-t-il, pas cherché à le rencontrer. Mais il s'agit pour Jablonka d'abord de Laetitia, d'abord de savoir quelle est sa vie. Et donc, au-delà de son enquête sur l'affaire elle-même, sur le crime et sur ce qui s'est passé ensuite, il fait une enquête sur la vie. Et nous suivons Laetitia de sa naissance et de sa vie de petit enfant dans un milieu absolument horrible, avec un père violent qui ira en prison parce qu'il aura violé sa mère, et un père qui pourtant à un moment aura la responsabilité de ses enfants, ils vivront dans des caves, enfin quelque chose d'horrible, et ensuite les placements en foyer, puis dans une famille d'accueil, laquelle famille d'accueil sera le lieu d'agression sexuelle et même d'un viol pour la sœur jumelle de Laetitia, voire pour Laetitia, mais ça n'a pas été prouvé. Bref, il y a toute cette vie, c'est quand même ça le livre. Pour le reste, je dois dire que, bah, peut-être que j'y reviendrai, mais l'aspect plus théorique du livre me paraît un peu, un peu moins intéressant.
Daniel Martin.
Oui, alors moi je suis vraiment sur l'autre versant du livre, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant la manière dont il rend à ces personnages une verticalité, une dimension humaine.
Exactement.
Alors que ça soit des personnes infréquentables, que ça soit des victimes, etc., etc. Je trouve que ça, c'est très important.
Et il devient proche dans tous les sens du terme, et comme écrivain d'ailleurs.
Sur cette réflexion, page 348, il en arrive à un chapitre qui s'appelle « Faits divers, faits démocratiques », où il écrit par exemple « C'est ainsi que l'échec de la démocratie se transforme en tragédie grecque. Quand les solidarités sont impuissantes à venir en aide aux offensés et aux humiliés, ceux-ci tombent dans une solitude où le plus sauvage assassine la plus fragile, etc. Ensuite, le peuple n'a plus qu'à défiler en de silencieux marche blanche où la communion collective autant expression de chagrin que défiance vis-à-vis du politique. » Et je trouve ça, c'est à la fin du livre, je trouve que ça, c'est un axe dans le livre qui est très très important, même si ça vous fait sourire. Je trouve ça extrêmement, cette ligne-là, je trouve ça extrêmement important. Je veux dire, ce monde politique qui ne parle plus d'idées, qui ne parle plus d'utopie, qui ne parle que de chiffres, c'est un monde politique qui est coupé de ce milieu, de ce milieu ordinaire où on peut considérer effectivement qu'il se passe des choses absolument sordides, mais dans quel milieu la bourgeoisie aussi a ses côtés sordides. Ce que Jablonka fait, il ne condamne pas ce milieu, au contraire, il l'explore, il en donne la nature, il donne de la verticalité à ces personnes-là, mais il dit bien que cet ordinaire-là est l'ordinaire de beaucoup de gens en France aujourd'hui, est complètement séparé d'un autre monde qui est un monde médiatique, politique.
Un monde médiatique, politique qui soit coupé de tout le reste de la société, c'est quand même une porte ouverte quand même qu'il est enfoncé là. C'est pas seulement de ce monde-là.
Je trouve que c'est quelque chose de suffisamment important pour être dit et redit. Il le dit très bien.
C'est dit et redit. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, si le livre s'appelle Laetitia, c'est un tombeau. Enfin, vraiment, genre littéraire du tombeau. chose, c'est-à-dire donnons une identité, vie à cette jeune
moi,
femme.
C'est un grand livre avec des faiblesses. Je parlerai ensuite des faiblesses.
Non, parce que vous n'aurez plus le temps, je vous préviens.
Mais justement, je vous relaie sur ce point. Parce que moi, précisément, les faiblesses sont d'ordre théorique.
Pour moi aussi.
Mais dans des jugements théoriques qui vont en effet quand même plus loin que la simple question de la séparation dont vous parlez. Il essaie par moment de faire une théorie générale de l'écrasement, de la soumission, notamment de la domination masculine.
Elle est victime parce qu'elle a toujours été victime et qu'elle était désignée comme étant victime. Moi, c'est un peu gênant.
Et par moment, ça tend à écraser le livre parce que c'est assez naïf, c'est assez schématique. Il y a un passage où il parle des abus sexuels qu'elles ont pu subir dans cette famille d'accueil. Et il fait un paragraphe sur tout ce qui se passait à cet égard au 19e siècle, sur le fait que les filles de l'assistance étaient en fait à disposition. Et il finit sans faire le moindre saut sur le 20e siècle et le 21e siècle. On l'a compris, le sort de Jessica est tragiquement banal. Au 19e siècle peut-être, mais il ne pense pas, en disant cela, ce qui a pu se passer entre-temps, alors qu'il montre par ailleurs que l'État a beaucoup fait pour protéger, que nous avons des services sociaux qui ont beaucoup changé depuis le 19e siècle. Et il tend parfois à faire de cette histoire l'illustration d'une sorte de domination des pauvres et des femmes éternelle, intangible depuis le 19e siècle, ce qui est d'une grande naïveté et qui est parfois un peu étouffant pour le livre. Quoi qu'il ait suffisamment d'honnêteté intellectuelle et de passion finalement dans cette histoire de Laetitia pour arracher son livre à cette tendance. Mais vraiment, la part théorique est la plus balourde de ce livre.
Dernier mot, Daniel Martin.
Je parlais de faiblesse. Pour moi, la faiblesse de ce livre, c'est effectivement un des derniers chapitres qui s'appelle « Laetitia, c'est moi ». Pour moi, c'est ça la faiblesse. C'est-à-dire que ce que je trouve remarquable, même si vous trouvez ça balourd, je trouve ça remarquable, cette mise à distance et cette prise de distance très souvent, et quand il arrive au chapitre Laetitia, c'est moi, je trouve ça faible.
La mise à distance est dans la construction même du livre, qui est souvent extrêmement fine, intelligente, dans la mise en scène de son travail d'enquête, ce qui est beaucoup plus intéressant.
Florent, terminant sur un accord, je trouve ce chapitre contradictoire avec ça. Mais par contre, c'est quelque chose que je trouve extrêmement... C'est pas ce que vous vouliez dire? Ce que je trouve extrêmement réussi là, c'est de dire que dans ce temps qui est notre temps contemporain, une société est faite de gens très différents qui cohabitent.
Vraiment, c'est ça qui...
Je trouve ça très important. Je suis désolé, les personnes dont il parle sont en général des exclus. Des gens qui sont hors des statistiques, hors des discours.
En l'occurrence, c'est pas le problème. C'est un membre de ce milieu qui a assassiné cette jeune fille. C'est pas un problème essentiellement social. C'est pas la lutte des classes. Quand Tony Meillon, SDF et cambrioleur, tue Laetitia, fille de l'assistance publique.
Je ne vous parle pas de
lutte. C'est à l'intérieur de ce milieu que ça se passe. C'est pas de la lutte des classes.
De lutte des classes.
C'est pas de la séparation sociale pour le dire en ces termes.
Il me semble que vous avez publié un livre sur une jeune femme qui est allée travailler en Bretagne.
Ben oui.
Et cette femme
qui était un livre précisément sur la séparation,
fréquente ce milieu-là en disant, moi, mon travail, c'est aussi de considérer que ces gens font totalement partie de la société.
Mais on est totalement d'accord sur ça.
Mais on est d'accord, mais c'est une évidence.
Je dis que dans ce livre-là, c'est moins
important. Alors, c'est peut-être une évidence pour vous, c'est une évidence dans ce livre, mais écoutez, lisez ce qu'on dit tous les jours, ce sont des exclus au sens où ils sont totalement...
Non, mais on ne peut pas, là.
Nous sommes mille fois d'accord, justement, même comme éditeur.
On est d'accord, on va s'engueuler en étant d'accord, c'est formidable. Il faut peut-être moins écouter et lire les 200 personnes auxquelles vous faites référence et qui sont de fait hors du monde. Mais on ne va pas débattre plus longtemps.
À l'ensemble de la société.
Yvan Jablonka publie Laetitia aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. Et on conclut par un jeu, c'est quand même mieux, parce qu'on fait gagner des cadeaux en plus. Hier soir, Lucille Comeau, c'était quoi?
La question était, le musée Confluence qui est à Lyon a vu le jour en 2014, le terrain n'était pas vierge, qu'a-t-on détruit pour l'y installer? Et la réponse est un boulodrome.
Ce soir, des invitations pour l'exposition Fantin-Latour au musée du Luxembourg Sénat à Paris, visible cette exposition jusqu'au 12 février. À quelle question faut-il répondre, Lucille?
Fantin-Latour a peint en 1872 une dizaine de poètes de son temps, parmi lesquels Rimbaud et Verlaine. Comment s'appelle le tableau?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Ainsi s'achève dans l'urgence la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Comeau, Daniel Martin, Florent Gergesco. Merci également à Daniel Finot, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinault. Merci à Valérie Lavalard qui assurait la prise de son ce soir, Daniel Finot qui réalisait l'émission. Rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Joël Gaillot, Lucille Comeau et René Solis pour une émission spéciale tout entière consacrée à 2666 d'après Roberto Bolaño dans une mise en scène de Julien Gosselin. Et puis Lucille Comeau passera un coup de fil en fin d'émission à Denis Laforêt, directeur du Cratère Scène Nationale d'Alès. Tout ça c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, les discussions du soir, dans quelques instants, le journal de la rédaction.